Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Billy Yvan Lutumba à la présentation.
Ce journal s'ouvre par la situation sécuritaire dans le territoire de Lubero. Les FRDC et le M23 s'affrontent âprement depuis dimanche soir sur l'axe Kasege, causant ainsi un déplacement massif de la population. C'est alors qu'un calme est signalé dans le massif où les forces aux prises consolident leur position en hommes et en armement depuis la prise de la commune rurale de Kanyabayonga. À suivre aussi dans ce journal, cette insistance du CONG, du Conseil régional des ONGD, auprès du gouverneur du Kasaï central pour une meilleure sélection des ministres provinciaux qui ne doivent pas être nombreux et plutôt orienter sa gestion aux résultats en minimisant les dépenses. Stanis Linangelo, doctorant en chimie, l'eau et de l'environnement à la faculté des sciences de l'université de Kisangani, et comme invité en fin de ce journal, c'est pour parler qualité et traitement de l'eau. Restez donc branchés sur Radio Okapi pour en apprendre davantage sur ces aspects de l'actualité congolaise et bien d'autres. Aimable auditeur, merci de cet excellent choix pour votre édification et l'information. Bienvenue et meilleures conditions d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. Dans le territoire de Lubero, des combats sont signalés depuis dimanche soir sur l'axe Kasege entre les FRDC et le M23. Selon des sources de la société civile, les deux parties s'affrontent pour le contrôle de Mbingi, chef-lieu de la chefferie de Batangi dans le sud de Lubero. Une situation qui provoque de nouveau un déplacement massif de population. Le point avec André Kitenge.
Des sources de la société civile dans la région rapportent que ces violents combats se sont poursuivis jusqu'à ce lundi matin. FRDC et M23 se battent pour le contrôle de la localité de Mbingi, chef-lieu du groupement de Batangi. Après l'occupation par les rebelles la semaine dernière de plusieurs agglomérations du sud du territoire de Lubero, notamment Kanyabayonga, Kaina, Kirumba et Miobwe, ces rebelles sont signalés sur l'axe Kasee-Busorobia, à moins de 100 km de Lubero centre. Ici, les FRDC, appuyés par les combattants Wazalendo, se battent pour repousser les rebelles du M23 qui veulent à tout prix avancer vers la localité d'Ali Mbongo sur la route principale Kirumba-Butembo. La société civile locale dans la région signale également l'arrivée de renforts du M23 à pied et dans des véhicules. Selon cette structure citoyenne, c'est pour renforcer le front qui se trouverait présentement autour de Mbingi, une zone riche en or. Toutefois, l'administrateur du territoire de Lubero indique que la situation est calme pour le moment à Lubero centre. Le chef-lieu du territoire vers où convergent des milliers de déplacés en provenance de Kirumba et dont certains prennent la direction des villages environnants. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nous allons rester momentanément dans le Nord Kivu pour parler de cette accalmie qui s'observe toujours sur toutes les lignes des fronts dans le territoire de Masisi. Selon les sources dignes de foi contactées ce lundi, chaque belligérant consolide ses positions en hommes et en armement depuis la prise de la commune rurale de Kanyabayonga vendredi dernier par les rebelles du M23. Par ailleurs, au regard de l'arrivée des renforts des rebelles sur différents axes, notamment Mushaki et Kilolirwe, plusieurs acteurs coutumiers de Masisi redoutent dans les jours à venir une offensive généralisée visant la cité de Saké. Cap vers l'Ituri pour parler de ces 12 miliciens de la CODECO qui ont été neutralisés dimanche et autres 23 blessés contre 3 militaires grièvement blessés dans la région des Lycées dans le territoire de Djougou. C'est le bilan provisoire livré par les services de sécurité au cours des opérations de pilonnage des positions des groupes armés CODECO et Zaïre qui ont violé les actes d'engagement de paix signés en avril dernier devant l'ancien vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Dans une communication faite à la presse ce lundi, l'armée indique que l'objectif est de pousser ces miliciens actifs dans la région minière dans le secteur de Banyalikilo à déposer les armes. Martial Kizabiamungu.
C'est tous les matins de dimanche qu'un hélicoptère de combat en provenance de Bounia a largué ses premières bombes vers l'ICI, une entité considérée comme une base opérationnelle de la CODECO, active dans cette zone minière. Les porte-parole de l'armée précisent que ces opérations ont permis à l'armée à récupérer les villages de Sokoyo, l'ICI, Mayolo et Andissa. Des sources sécuritaires indiquent que 12 miliciens de la CODECO ont été neutralisés et 23 blessés, acheminés tous par leurs compagnons d'armes dans l'aire bastion de Nyangaraï. Les trois FRDC et un milicien de l'autodéfense Djamoukoula Batou, blessés, reçoivent les soins pour le moment dans une structure médicale à Kilo. Le président de la communauté des Banyali Kilo, Vital Tungolo, demande à l'armée de poursuivre cette offensive jusqu'à libérer les 13 groupements de ces secteurs occupés par la Codeco. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puisque nous sommes en Ituri, sachez que Thomas Lubanga Dilo et Djoka Balambi, respectivement, président national de l'Union des Patriotes Congolais UPC et secrétaire général de cette formation politique, ont été auditionnés ce lundi à l'auditorat militaire supérieur près la cour militaire de cette province. C'est à la suite d'une plainte déposée par le porte-parole de l'armée mercredi dernier à cette instance judiciaire militaire. Après avoir été entendu des faits dont on les réproche, les deux acteurs politiques sont retournés à leur siège où ils ont tenu un rassemblement appelant leurs sympathisants au calme, selon des sources judiciaires. L'audition va se poursuivre dans les prochains jours. Pour rappel, il y a une semaine, dans une déclaration faite devant la presse, le parti politique UPC avait dénoncé l'échec de l'état de siège 3 ans après son instauration par le chef de l'État, avant d'affirmer que le président Thomas Lubanga est victime de la stigmatisation de la part du gouverneur de province qu'il aurait qualifié de criminel. Actualité dans la province du Congo central. Un coupeur de route tué cette nuit alors que sa bande extorquait sur la nationale numéro 1 à hauteur du village Sambou. Nous sommes à la limite des territoires de Mbanzangungu et Madimba. Ce dernier a reçu une balle pendant qu'il tentait de braquer une seconde fois un bus Transco transportant des militaires en tenue civile en partance du centre d'instruction de Kitona à Mwanda. Le responsable du service des renseignements au commissariat territorial de la police de Mbanzangungu, Babel Mandefou, donne plus de détails sur ces faits au micro de Nana Plurich Mambo.
C'était au village Kowet, vers 0h. Il y a eu un minibus Yas en provenance de Lufu pour Kinshasa, qui était en panne. D'emblée, les coupeurs de route se sont présentés. Ils ont ravi l'argent et téléphone à bord de ces minibus. Et puis ils ont barricadé la nationale numéro 1. Vers 2h du matin, il y a eu un convoi d'une dizaine de bus Transco en provenance de Kin qui partait pour Kitona, escorté par des PEM. Ces inciviques sont entrés dans l'un des bis. Ils ont trouvé un adjudant-chef endormi et ils ont ravi l'arme AK. Puis l'autre, qui veillait encore, a vu que c'était des criminels, a tiré sur un d'eux. Et ils sont enfuis, tous. Informés de la situation, nous sommes arrivés sur le lieu. L'adjudant-chef nous a dit qu'il avait tiré à bout portant sur un des criminels. Et nous avons suivi les traces de sang jusque dans la brousse à 80 mètres de l'ancien numéro 1. Et nous avons trouvé ce monsieur succombé avec son calibre 12 et un sac appartenant à un client qui était dans les bus.
Kassai Central à présent en prévision de la formation de son gouvernement. Le nouveau gouverneur de province a entamé des consultations avec la classe politique, les forces vives et différents services publics. Après avoir été consulté par Joseph Moïse Kamboulou, la société civile a, dans son cahier de charges, recommandé au nouveau patron de la province de sélectionner une équipe gouvernementale restreinte, représentative et compétente, capable de l'aider à développer la région. Albert Kyungu, du Conseil régional des ONG de développement à Krongdak, s'exprime au micro de François Kadima.
Nous avons besoin de limiter les trains des institutions, les dépenses et de capitaliser le travail. Que cette équipe soit vraiment restreinte en prenant en compte les sensibilités et que les hommes et les femmes qui seront retenus soient des hommes à la hauteur de leurs tâches, sans se perdre dans des cabinets pléthoriques dont certains ne seront que des figurants, mais des gens qui sont vraiment à la hauteur de leurs tâches. Ça, nous avons conseillé une équipe efficace, efficiente et représentative. Ne travaillons pas avec et va dans une gouvernance traditionnelle. Aujourd'hui, la gestion axée sur l'héritage doit être implémentée dans la conduite de la gouvernance provinciale et l'approche bidier-programme. 3 mois, 6 mois, 1 année, savoir se fixer des objectifs et les réaliser. Nous avons demandé à l'autorité provinciale de s'approprier et de capitaliser les différents programmes et projets lancés par les niveaux centraux dans la province. Il y en a beaucoup qui sont en train de végéter ou qui sont en train de sombrer tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'attention.
Cet autre aspect d'actualité, l'Église du Réveil au Congo a salué ce lundi la démarche du ministre de la Justice sur la suppression du folio 92, ce document qui attribue à titre d'accusé des réceptions aux églises demanderesses la personnalité juridique. Le représentant légal de cette structure l'a dit au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. L'archevêque Ejibaya Mapia est d'avis que cette initiative va remettre de l'ordre au sein des communautés ecclésiastiques et leur permettre de constituer une force capable d'accompagner l'État congolais. Archevêque Ejibaya Mapia au micro de Blaise Ndongala.
Maintenant, le ministre de la Justice nous dit que j'ai besoin que tout le monde se regroupe ensemble. Ceux qui se reconnaissent catholiques, qu'on sache qu'ils sont catholiques. Ceux qui sont de réveil, qu'on sache qu'ils sont de réveil. Ceux qui sont de l'armée de salut, qu'on sache qu'ils sont de l'armée de salut. Ceux qui sont kimbanguistes, qu'on sache qu'ils sont kimbanguistes. Nous, au sein de l'Église du Réveil du Congo, nous prenons l'unité et nous disons à tous ceux qui nous suivent, chers révérends, ne restez pas en solo. Ensemble, notre voix sera plus entendu que quand tu parles seul, même si tu dis être le prophète majeur, l'apôtre majeur, ou tout ce que nous nous appelons là. Vous êtes pasteur, vous êtes révérend, vous êtes évêque, vous êtes prophète. Nous voulons que vous puissiez être regroupé, être aligné et qu'on sache qui fait quoi, avec qui et pour le compte de quelle confession religieuse.
Signalons que la suppression du folio 92 prive les associations et églises en attente de reconnaissance juridique le document nécessaire à leur fonctionnement. Avant de passer à la page internationale, nous parlons lutte contre le VIH-Sida. L'ONG, Réseau des associations congolaises des jeunes, RACO Sida Maniema, se lance dans la sensibilisation des jeunes sur la chaîne de propagation du VIH-Sida. Pour son coordonnateur provincial, le souci de sa structure est d'arrêter toutes sortes de transmissions de cette maladie aux jeunes du Maniema. C'est fin Ramazani Sefo en parle au micro de Florence Kizalunga.
Avec les jeunes, nous sommes en pleine sensibilisation parce que les RACO est en train de mettre stop au VIH-Sida, la propagation du VIH. Donc c'est un virus qui est en train de gaper vraiment cette jeunesse. Nous avions jugé bon et utile de continuer à faire notre sensibilisation au milieu des jeunes. Nous visons que le VIH puisse s'arrêter parce qu'une jeunesse avec le VIH, c'est une jeunesse déjà qui est totalement amortie. C'est une jeunesse qui ne doit pas travailler. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette sensibilisation selon les différentes couches. Pour les adolescents et jeunes, nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils puissent s'abstenir parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de faire des relations sexuelles. Parce qu'après les études, la contamination du VIH, la grande proportion, c'est au niveau des relations sexuelles. À ce niveau, le VIH est en train de s'obtenir à une proportion très élevée. Deuxièmement, nous sommes en train de sensibiliser aux mariés, les jeunes mariés, de faire une bonne fidélité. Et aux gens qui ne veulent pas utiliser la bonne fidélité, l'abstinence, nous sommes en train de distribuer des préservatifs pour qu'ils puissent néanmoins utiliser les préservatifs d'une manière correcte et systématique. Quatrièmement, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse de faire le dépistage. On ne doit pas vraiment continuer à faire la vie sans pour autant connaître son état sérologique.
Actualité internationale.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a intégré sept partis différents à son cabinet dans le cadre d'un accord de partage du pouvoir sans précédent dans le pays le plus industrialisé du continent après que le Congrès national africain, ANC, a perdu sa majorité parlementaire lors d'un résultat électoral marquant la fin du mois de mai. L'annonce du nouveau cabinet par M. Ramaphosa dimanche soir fait entrer l'Afrique du Sud dans un territoire politique inconnu après 30 ans de domination de l'ANC qui a libéré le pays du joug de la minorité blanche de l'apartheid en 1994 et l'a gouverné depuis lors. Au Nigeria, la crise énergétique est devenue une réalité quotidienne pour de nombreux habitants. Environ la moitié des plus de 200 millions de Nigériens sont connectés à un réseau électrique national incapable de fournir une électricité suffisante. Dans les communautés rurales et pauvres, l'absence totale de connexion au réseau laisse des millions de personnes sans électricité, mettant en mal leur qualité de vie et leur avenir.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, dans la province du Bazouélé, des voix s'élèvent de plus en plus pour décrier la qualité de l'eau de la rivière Aruimi. La plupart la qualifient de polluée, car affirme-t-on, des cas de décès et des maladies liées à la consommation de cette eau sont déjà enregistrés. Nous recevons à ce sujet Stani Linangelo, doctorant en chimie de l'eau et de l'environnement à la faculté des sciences de l'université de Kisangani, enseignant à l'Institut supérieur pédagogique ISP Kisangani. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole sur le traitement de l'eau.
Stani Linangelo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Ces derniers temps, on parle de plus en plus de la pollution des eaux de la rivière Arouémi. Quand est-ce que les eaux peuvent être considérées comme polluées?
Bon, nous avons plusieurs types d'eau. Nous avons les eaux souterraines, les eaux de surface. Une eau est polluée lorsqu'il y a quelque chose de nuisible qui pénètre là-bas. Alors, oui, d'ailleurs, c'est une occasion, c'est une opportunité. Même ma thèse, je fais ça sur la rivière Arouémi. Au moment où je vous parle, cet écosystème est menacé. Elle est polluée par rapport à ce qui se passe là-bas. Les activités anthropogéniques ou anthropiques, c'est-à-dire tout ce qui est fait par l'homme, c'est-à-dire là en l'occurrence nous parlons par l'exploitation avec les dragues cissées et les dragues robots qui se passent dans cette rivière-là.
Est-ce qu'à l'œil nu on peut constater, on peut juger que cette eau est polluée?
Oui, messieurs les journalistes, parler à l'œil nu, là c'est le commun des mortels. Mais nous qui sommes scientifiques, d'emblée, on ne peut pas porter un jugement sur base de la couleur. Parce que même aux humanités, à l'école primaire, on disait que l'eau est incolore, inodore, insipide. Mais pour porter un jugement sur cette molécule qui est l'eau, il faut passer par les analyses. Nous avons les analyses physico-chimiques et nous avons aussi les analyses bactériologiques. Et ce sont ces analyses qui vont vous dire que non, cette eau ne répond ou pas aux normes de potabilité.
À la rivière Arouémi, on n'est pas allé au laboratoire, mais une délégation du Bazoulé, de l'Assemblée provinciale du Bazoulé, qui s'est rendue, avance la thèse de la pollution des eaux. Il se fonde sur certains aspects physiques.
Oui, je pense que... ceux qui ont dit ça, nous en tant que scientifiques, on se réserve. Pour porter ces jugements, il faut passer par les analyses physico-chimiques. Et ils se sont mis parce qu'ils ont vu la couleur, la coloration, l'eau a changé. Et laissez-moi vous dire que non, d'emblée comme ça, à base de la coloration, on ne peut pas porter un jugement si l'eau, que non, elle est polluée. Mais avec les analyses, on peut conclure que non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais l'eau fait partie, la couleur, ça dérange aussi parce qu'il y a une couleur appropriée, il y a un seuil de couleur. Ça, si ça déborde, ça devient un danger.
Que pensez-vous alors de certains cas de décès et même des maladies qui ont été rapportés? N'est-ce pas qu'ils seraient liés à la consommation de cette eau?
Oui, je me réserve. Moi, je suis scientifique. Je ne suis pas un commun des mortels. Et je vous ai dit que non, j'ai une expertise de première main. C'est-à-dire, on doit procéder, on doit chercher. Si ces gens-là, bon, je ne sais pas comment ils doivent conclure. Ils ont fait les analyses où et comment. Nous sommes là, ils peuvent nous contacter. Nous allons aider la population. Nous allons aider le gouvernement à faire les analyses. Et après les analyses, les résultats que nous aurons, nous allons dire que non, ici, il y a pollution ou pas. Mais d'emblée, oui, le commerce des mortels peut avoir raison. Mais aussi longtemps que le commerce des mortels n'a pas encore des preuves palpables, touchables, là, on se réserve. Moi, en tant que scientifique, je me réserve. Mais lorsqu'on va chercher notre expertise, si les veulent bien, le gouvernement le veut bien, nous serons là pour les aider.
Quelles sont les causes à la base de la pollution des eaux?
Les causes dans le sens que ce qui canalise, même l'exploitation, vous savez, même l'exploitation de ce qui se passe à la rivière Arouémi. Non, c'est grave, parce que lorsqu'on exploite l'or avec les dragues cissères, avec les dragues robots, tous ces déchets, on jette ça à l'environnement. L'environnement est victime, l'eau est victime. Et cette eau-là, cette population va prendre. Si je parle comme ça, messieurs les journalistes, je suis riverain. Toute cette calamité que nos frères riverains sont en train de vivre là-bas. Les riverains vivent dans l'eau, des faits que là-bas consomment cette eau, mangent.
Monsieur Linangelo, peut-on consommer du poisson attrapé ou pêché dans ces eaux considérées comme polluées, entre guillemets?
Ils consomment les poissons. Il y a les plantes aquatiques que les riverains consomment. Lorsqu'on parle de pollution ici, nous on ne voit pas seulement les analyses microbiologiques. Il y a des métaux lourds qui sont à la base. Lorsque vous prenez une eau polluée par les métaux lourds comme les plombs, uranium, thorium, chrome, cadmium. L'arsenic n'est pas un métal lourd, mais il est toxique. Lorsque vous prenez une eau polluée par les métaux lourds, non, vous êtes victime de cirrhose de foie, maladies cancérigènes, toutes ces maladies-là. Vous êtes victime. Vous serez victime parce que vous consommez une eau qui ne répond pas aux normes.
Alors, quel comportement l'homme devrait-il adopter pour éviter la pollution de l'eau?
Nous sommes là, nous proposons. Les scientifiques proposent. Non, l'État, voilà ce qui est fait. Parce que cette population, c'est l'État, c'est lui le responsable. On peut juguler, on peut arrêter l'exploitation. Pas arrêter, c'est un peu dire. On peut pas suspendre, mais tous ces minéraux-là, ça ira où? On doit réguler comment exploiter par an, une année à 4 mois, comment on peut faire, si c'est 6 mois et tout ça. Mais on doit protéger aussi tous ces mondes-là qui vivent tout autour de cet écosystème-là qui est l'eau de la rivière.
Monsieur Sani Linangelo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Auditeur de Radio Capi, c'est le temps pour nous aussi de vous dire merci pour l'attention que vous nous avez accordée en suivant ce journal préparé par Élise Chikota, Martin Sebou-Jangwe, Jude Mister Bilanda, et l'équipe et la Mondo et l'ensemble de toute la rédaction. Paul Pierre Diassino assurait la prise des soins et la mise en onde de Billy Van Lutumba vous l'a présenté une fois de plus. Merci de nous avoir suivis.